se sont multipliés.
Bonjour à tous, vous écoutez Archilittérature, un podcast proposé par la Maison de l'Architecture de Franche-Comté. Je suis Céline Morlot, votre lectrice du jour. Aujourd'hui, pour notre deuxième épisode, L'emploi du temps de Michel Butor, paru en 1956, ou La ville monstre.
L'emploi du temps, c'est un duel, une lutte à mort, entre Jacques Revel, jeune français en déplacement professionnel pour un an en Angleterre, et Blaston, ou Bellstown, la ville aux cloches, ville fictive. La ville qui blesse, dans laquelle Revel se retrouve prisonnier. Victime de ce qu'il nomme le sortilège de Blaston, qui conjugue miasme et brouillard, zone de pauvreté absolue et frais jardins floraux, foire itinérante et cathédrale, Revel est à la fois séduit et écœuré par la ville. Ne connaissant ni la langue ni la culture locale, Revel est livré à lui-même dans un monde de signes qu'il ne parvient à déchiffrer clairement. Il prend pour guide tout d'abord la carte du centre-ville, que Michel Butor fait figurer en première page de l'emploi du temps. Puis un roman policier dont l'intrigue se déroule à Blaston, au titre des plus ambigus, Le meurtre de Blaston. Ainsi le récit prend-il l'allure d'une enquête, attribuant ses échecs relationnels et amoureux à Blaston, à ses lueurs glauques, Revel entreprend de vaincre la ville, de la révéler. Pour cela, il tient un journal, qui constitue le roman L'emploi du temps, afin de se remémorer le cours des événements et d'y trouver la faille de Blaston. Plus il écrit, plus les lignes temporelles se multiplient, et finalement, l'écriture même de Revel rejoint le trouble, l'obscurité, l'hostilité qu'il prête à la ville qu'il assimile aux figures de Caïn et du Minotaure.
Jeudi 1er mai. Les lueurs se sont multipliées. C'est à ce moment que je suis entrée, que commence mon séjour dans cette ville, cette année dont plus de la moitié s'est écoulée, lorsque peu à peu je me suis dégagée de ma somnolence, dans ce coin de compartiment où j'étais seule, face à la marche, près de la vitre noire couverte à l'extérieur de gouttes de pluie, myriades de petits miroirs, chacun réfléchissant un grain tremblant de la lumière insuffisante qui brunait du plafonnier sali, lorsque la trame de l'épaisse couverture de bruit qui m'enveloppait depuis des heures presque sans répit s'est encore une fois relâchée et défaite. Dehors, c'étaient des vapeurs brunes, des piliers de fonte passant, ralentissant, et des lampes entre eux, aux réflecteurs de tôle émaillée, datant sans doute de ces années où l'on s'éclairait au pétrole. Puis, à intervalles réguliers, cette inscription blanche sur de longs rectangles rouges, « Blaston Hamilton Station ». J'ai attendu. Je me suis redressée, les jambes un peu écartées pour bien prendre appui sur ce nouveau sol, regardant autour de moi. À gauche, la tôle rouge du wagon que je venais de quitter, l'épaisse porte qui battait à droite d'autres voies, avec quelques éclats de lumière dure sur les rails. Et plus loin, d'autres wagons immobiles et éteints, toujours sous l'immense voûte de métal et de verre, dont je devinais les blessures au-delà des brumes. En face de moi, enfin, au-dessus de la barrière que l'employé s'apprêtait à fermer juste après mon passage, la grande horloge au cadran lumineux marquant 2 heures. Alors j'ai pris une longue aspiration et l'air m'a paru amer, acide, charbonneux, lourd, comme si un grain de limaille lestait chaque gouttelette de son brouillard. Un peu de vent frôlait les ailes de mon nez et mes joues, un peu de vent au poil âpre et gluant, comme celui d'une couverture de laine humide. Cet air auquel j'étais désormais condamnée pour tout un an, je l'ai interrogé par mes narines et ma langue, et j'ai bien senti qu'il contenait ces vapeurs sournoises qui depuis 7 mois m'asphyxient, qui avaient réussi à me plonger dans le terrible engourdissement dont je viens de me réveiller. Je m'en souviens, j'ai été soudain pris de peur, et j'étais perspicace. C'était bien ce genre de folie que j'appréhendais, cet obscurcissement de moi-même. J'ai été envahie toute une longue seconde de l'absurde envie de reculer, de renoncer, de fuir. Mais un immense fossé me séparait désormais des événements de la matinée et des visages qui m'étaient les plus familiers. Un fossé qui s'était démesurément agrandi tandis que je le franchissais, de telle sorte que je n'en percevais plus les profondeurs et que son autre rive, incroyablement lointaine, ne m'apparaissait plus que comme une ligne d'horizon très légèrement découpée sur laquelle il n'était plus possible de discerner aucun détail. Jeudi 22 mai. J'ai déplié la carte sur le lit. Alors moi, taupe me heurtant à chaque pas dans ces galeries de boue, tel un oiseau migrateur prêt à fondre, j'ai embrassé d'un seul regard toute l'étendue de la ville. Bien sûr, ce n'était qu'une image très imparfaite. Les ardoises des toits vues d'en haut, les cheminées fumeuses, les briques sombres, le macadam des chaussées aurait formé comme un grand lichen gris à stries rousses, ridé, rugueux, couvert d'écume, comme on en trouve sur les rochers au littoral des mers froides. Et la rivière, même par la journée la plus claire, aurait gardé sous quelques reflets sa noirceur de goudron. Pourtant, grâce à elle, grâce à cette image, j'étais mieux renseigné sur la structure de Bleston que n'aurait pu l'être un aviateur la survolant, ne serait-ce que par cette ligne pointillée marquant les limites de son territoire administratif, en dehors duquel les maisons se groupent sous d'autres noms, la dessinant en forme d'œuf, la pointe au nord. Ainsi, moi, virus perdu dans ses filaments, tel un homme de laboratoire armé de son microscope, je pouvais examiner cette énorme cellule cancéreuse dont chaque encre d'imprimerie, comme un colorant approprié, faisait ressortir un système d'organes. Jeudi 5 juin. Je me souviens avec beaucoup de précision de ma visite au vitrail du meurtrier dans l'ancienne cathédrale l'après-midi du lendemain, le dimanche 4 novembre. C'est un îlot de certitude, j'en ai ressassé maintes fois les péripéties. J'étais arrivé par le bus 17 jusqu'au portail sud, mais j'avais contourné le bas-côté pour entrer par la façade principale à l'ouest, dont les deux tours carrées de cils perpendiculaires tardifs brillaient de toutes leurs arêtes encore humides de la pluie du matin, sous le ciel éclairci. À l'intérieur, tout était calme. Je me suis mis devant la grille du chœur, sous l'orgue, à travers laquelle j'apercevais la lueur d'une lampe à huile dans son verre rouge. Et j'ai regardé dans la grande verrière à ma droite cette scène au sommet, inscrite dans un cercle dont je savais déjà par la lecture du meurtre de Bleston, qu'elle représente Caïn tuant son frère Abel. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Un ecclésiastique d'âge mûr, en surplis, m'a abordé. « Vous êtes venu voir notre vitrail ? Surprenant, n'est-ce pas ? Bleston est la seule ville de toute l'Angleterre à posséder de beaux spécimens de cette période. Est-ce la première fois que vous entrez dans cette église ? Pas exactement. J'y suis déjà venue, il y a quelque 15 jours, mais il pleuvait. J'avais à peine remarqué cette fenêtre, elle ne brillait nullement comme aujourd'hui. Et puis je l'ai vue mentionnée dans un livre. Elle est très célèbre, en effet. Il est peu d'ouvrages sur notre pays qui n'y fassent quelque allusion. Et pourtant, ici même, on en parle fort peu. Vous auriez pu vous promener des mois dans ce vieux quartier qui nous entoure sans que personne vous engage à l'aller voir. Vous êtes arrivé récemment ? Il y a un mois. Vous êtes étudiant à l'université, sans doute ? Non, hélas, je fais un stage dans une maison d'exportation. Mais Susan Sons, 62 White Street. Je suis là pour une année entière, je ne repartirai qu'en fin septembre. Je suis français, naturellement, comme ma prononciation détestable vous l'avait déjà fait deviner. Ce vitrail est attribué à des maîtres de votre pays, le milieu du XVIe. L'architecture de la fenêtre a été refaite à cette occasion. Le grand cercle où s'inscrit la scène du meurtre, au-dessus de la baie centrale plus large et moins élevée que les deux autres, est une particularité assez rare. Un rayon de soleil traversait la flaque de sang ruisselant des blessures d'Abel et venait s'écraser à notre gauche sur la paroi du transept en une tache rouge qui bientôt s'est éteinte. Dans les quatre triangles curvilignes qui le raccordent aux autres panneaux et au bord supérieur, vous pouvez distinguer des fleurs à 6 pétales qui sont peut-être des flammes, des fleurs avec un œil au centre dans lesquelles certains veulent voir des représentations de séraphins. L'artiste a suivi le texte d'aussi près qu'il a pu. Regardez ce ruban qui court dans ces trois scènes avec des inscriptions plus très lisibles mais que l'on arrive assez facilement à reconstituer. Au centre, Posuitque Dominus Signum. Et le Seigneur lui imprima un signe. Est une expression tirée de la Vulgate Genèse, chapitre 4, verset 15. À gauche, Profugus in terra, vagabond sur la terre, vient du verset 16 et c'est du verset 17 qu'a été extraite celle-ci. Et a edificavit civitatem. Et il construisit une cité. Cette cité que vous voyez se déployer en bas dans toute la largeur de la fenêtre et que l'artiste a représentée en s'inspirant de celle qu'il avait alors sous les yeux, de la Bleston de ce temps-là. Ce qui donne à toute cette partie une très grande valeur de document puisque l'on y voit représenter assez fidèlement des édifices aujourd'hui disparus. Quant au personnage du premier plan, c'est évidemment le peuple de la ville, la descendance de Caïn. À gauche, au-dessous de Profugus Intera, devant les arcades de l'ancien marché, assis à son métier semblable à ceux qu'avaient les tisserands de Bleston en ce temps-là, entouré de ses chèvres, près de sa tente, Seyabal, ancêtre de tous ceux qui filent, qui fabriquent et teignent des toiles. Au centre, sous la scène de l'imposition du cygne, devant la cathédrale à croissant, Yubal, l'ancêtre de tous les musiciens. Debout, la bouche grande ouverte comme s'il hurlait. Au milieu de ses fils avec les instruments avant, l'orgue, la trompette et la flûte. Et de ses filles avec les instruments à cordes, la harpe, la viole et le luth. À droite, au-dessous de Caïn Masson, devant la rivière, Tubal Caïn, ancêtre de tous ceux qui travaillent les métaux, les tenailles dans la main gauche, tenant une roue sur l'enclume. Bleston, ville de tisserands et de forgerons, qu'as-tu fait de tes musiciens? J'entends la profonde crécelle d'un camion. Mercredi 11 juin. Un roman policier qui se passe à Bleston, a-t-il poursuivi? Oui, il faudra que vous me le passiez. Je me demandais si j'en connaissais un autre, mais non, je ne crois pas qu'il en existe. Du moins, parmi tous ceux qui sont chez ma mère, je vous l'avouerai, monsieur Revel, je trouve cela très surprenant. Ah oui, Jenkins? Je n'ai jamais quitté Bleston, monsieur Revel. Même pour aller sur la côte, ou dans les collines, ou dans la région des lacs. Je n'ai jamais vu d'autre ville, monsieur Revel, ni ce qu'on appelle un village. Ce n'est jamais qu'au cinéma, monsieur Revel, que j'ai pu apercevoir d'autres régions et d'autres cités. Mais il me semble qu'il y a ici quelque chose de particulier, quelque chose dont je n'ai jamais lu de description satisfaisante dans tous ces livres dont l'action se situe ailleurs. Une sorte de peur permanente. Vous trouverez cela fort ridicule, sans doute, mais si vous connaissez déjà fort bien Bleston, monsieur Revel, si vous savez dénicher des restaurants dont tout seul je n'aurais jamais franchi ni même remarqué l'entrée, vous ne la connaissez pas de la même façon que moi, vous n'en avez pas la même habitude. Vous avez vu surtout les beaux endroits jusqu'à présent, ces avenues et ces jardins dont les arbres nous protègent. Mais un jour, vous déboucherez forcément dans ces rues presque désertes où l'on se perd. Peut-être avez-vous déjà goûté à leur amertume. Peut-être avez-vous déjà essayé de vous échapper, mais en ce cas, ce n'est que le commencement, monsieur Revel. Et comprenez-moi, cela est difficile à expliquer, cela refuse de se laisser dire. Ce n'est pas votre chemin que vous perdrez. Je les connais, ces rues. Je ne connais pas tout Bleston. Il y a des quartiers entiers dans lesquels je n'ai jamais eu affaire, et que j'ignore autant que vos concitoyens qui n'ont jamais quitté le continent. Mais ces rues auxquelles je pense en ce moment, ces rues nombreuses, j'ai leurs plans clairs dans ma tête. Je m'y dirigerais aveugle et sourd si je ne me mettais à y déraisonner. Voilà. C'est comme si tous les acteurs d'un meurtre y étaient cachés. Tout est prêt, la victime est derrière une des portes, la main sur la poignée de la serrure. Elle va sortir, tourner au coin où son ennemi s'est embusqué, le doigt déjà sur la détente. Mais tout est suspendu. Même à midi, les rares passants frôlent les murs et se pressent en fredonnant des chansons, le cou rentré dans les épaules comme si c'était la nuit noire. Je ne puis plus alors avancer qu'avec une extrême lenteur, et l'envie m'envahit de plus en plus que tous ces malheurs éclatent pour que l'attente se termine et que l'on puisse marcher enfin, parler enfin, respirer. Mais ils se produisent parfois. Cela fait un grand titre sur l'Evening News ou le Bleston Post. Et l'attente ne finit pas, tout est encore prêt, car rien d'autre ne saurait véritablement se passer dans un tel décor que de sordides crimes. Et tout le reste y mène à travers d'innombrables détours, tout le reste n'est que voile devant nous. Lundi 23 juin. L'été sera court. Quand je partirai en fin septembre, quand je m'arracherai enfin à Bleston, à cette Circé et à ces sombres sortilèges, quand enfin j'aurai la possibilité, délivrée, de retrouver ma forme humaine, de laver mes yeux, les jours n'auront déjà plus que cette pauvre clarté déchirante, cette clarté de larmes et de lamentations, qu'ils avaient au début d'octobre lors de mes premiers pas, de mes premières recherches, de mes premières errances, de mes premiers combats, de mes premières défaites, de mes premières résistances dans cette ville. Puis ils deviendront ces ombres de jours que je vivais en novembre, si l'on peut appeler ça vivre, et ils continueront à pourrir, à se liquéfier comme des cadavres, à se recouvrir comme des fantômes, de multiples linceuls de plus en plus trempés de boue, à s'enfoncer comme des noyés parmi les algues charbonneuses et les bancs de vase, comme ils ont continué jusqu'à Noël. Ô beau soir, beau soleil poudroyant dont les éclats moites et comme doucement velus m'atteignent encore. Réfléchis par les fenêtres entr'ouvertes au premier étage des petites maisons de briques assombries et moroses sur le côté droit de Drew Street. La rue de la rosée pesamment rose, de plus en plus teinte rose, de plus en plus profondément contaminée du rouge lumineux de ce beau ciel qui va demeurer rouge près d'une heure au-dessus des toits d'ardoise. Bel après-midi de samedi où pour la première fois le parfum des roses s'est mêlé dans l'air aux exhalaisons de la Slee. De plus en plus pourpre au-dessus de Dow Street et puis le vert, dans cet étang du ciel, parmi l'épaisseur des roseaux, fleurit une lune à peine brouillée, tel un pâle iris duveteux qui n'aurait encore déroulé qu'un seul de ses pétales. Mardi 5 août. C'était la veille de ce dernier jour d'avril, donc le mardi, lorsque je suis rentrée ici et que j'ai vu la couverture toute neuve du plan de Bleston que j'avais racheté à Anne, le soir précédent, le lundi. Sa couverture toute neuve sur cette table où se trouvait déjà cet exemplaire du meurtre de Bleston, ce guide, ce schéma des lignes de bus, cette notice illustrée de la nouvelle cathédrale, mais où manquaient encore ces deux piles de pages blanches ou griffonnées. Alors m'est apparu tout ce qu'avait d'insensé mon geste du dimanche, l'incendie de mon ancien plan qu'il m'avait bien fallu remplacer. Alors j'ai décidé d'écrire pour m'y retrouver et me guérir, pour éclaircir ce qui m'était arrivé dans cette ville haïe, pour résister à son envoûtement, pour me réveiller de cette somnolence qu'elle m'instillait avec toute sa pluie, avec toutes ses briques, avec tous ses enfants sales, tous ses quartiers déserts, avec sa Slee, avec ses gares, avec ses baraques et ses jardins, pour ne pas devenir semblable à tous ces sommeilleux que je frôlais, pour que la crasse de Bleston ne me teigne pas jusqu'au sang, jusqu'aux os, jusqu'au cristallin de mes yeux. J'ai décidé d'élever autour de moi ce rempart de lignes sur des feuilles blanches, sentant comme j'étais atteint déjà, comme je m'obscurcissais, combien j'avais déjà dû laisser pénétrer de vases dans mon crâne pour en être arrivé à cette situation stupide et pour en avoir éprouvé tant de troubles, sentant comme elle avait circonvenu ma dérisoire vigilance, Bleston, comme en quelques mois d'horribles caresses, elle avait rendu ma tête poreuse à son venin de haine et de léthargie. Mercredi 20 août. Il y a 4 jours, le 16 août, la façade de la nouvelle cathédrale en plein soleil, criant sa nouveauté, m'a fait presque oublier l'édifice déjà ancien que j'avais l'intention de visiter encore une fois, où je ne suis entrée que pour quelques instants sans pouvoir examiner quoi que ce soit avec attention. Ni les mouches autour de la statue de la Vierge, ni le croisement des jubés, ni la grande tortulute du chapiteau des Chéloniens, parce que je ne pouvais pas ne pas voir, au travers des hautes vitres blanches, cette énorme paroi de briques luisantes, cette preuve, hélas, de la vitalité de cette ville mauvaise, ce grand changement fait pour condamner tout vrai changement, cette façade qui me déclarait « Jacques Revel qui veut ma mort. Regarde ce nouveau visage de l'hydre, comme il est fort, comme il sera difficile à abattre. Sur cette immense carapace, quelle brûlure minuscule provoquera tout ce que tu pourras rassembler de braises. » Je suis Bleston, Jacques Revel, je suis dur, je suis tenace. Et si quelques-unes de mes maisons s'écroulent, ne va pas croire pour autant que moi je tombe en ruine et que je suis prête à laisser la place à cette autre ville de tes faibles rêves. De tes rêves que moi j'ai réussi à rendre si minces, si obscurs, si dispersés, si balbutiants, si impuissants. À cette autre ville dont tu t'imaginais peut-être que cette charpente, si bien enrobée maintenant, annonçait l'approche en avril. Mes cellules se reproduisent, mes blessures se cicatrisent. Je ne change pas, je ne meurs pas, je dure, j'absorbe toute tentative dans ma permanence. Ce nouveau visage que je te montre, tu le vois bien, ce n'est pas vraiment un nouveau visage, ce n'est pas un visage du présent, ce n'est pas le premier symptôme de ma contamination par cette ville fantastique que l'on prétend m'opposer sans être capable de me la décrire. Mais c'est le visage présent de cette ville non pas ancienne, mais vieille que je demeure, de cette ville que certains disent condamnée. Regarde, Jacques Revel, rien ne m'a recouverte, rien ne m'a fait reculer. Regarde comme je suis encore toute neuve. Toi qui me hais si fortement, toi qui comptais sur ma décrépitude, qui supputais le temps de ma dégradation, de mon abdication, qui éparpillais mes cendres au vent dans tes rêves, tous tes calculs sont à refaire. Ce n'est même pas à partir de maintenant, vois-tu, qu'il faut recommencer tes évaluations. Simplement à partir du moment où je serai débarrassée de toi, petit rongeur. Puisque ce grand magasin que tu contemples déjà, qui t'écrase déjà, qui t'engloutit, ne sera achevé qu'alors. Cette ère dont tu voulais tant t'éloigner, elle n'a même pas encore fini de venir. C'est sans espoir, Jacques Revel, toute la force est de mon côté, ne l'as-tu pas encore suffisamment éprouvé? Tu as failli causer toi-même la mort de ton complice, George Burton. Et par ta propre faute, cette Anne que tu voudrais tant retrouver ne pense plus à toi. Renonce, minuscule Jacques Revel, qui cherchais à te réveiller, qui pensais échapper à mes sortilèges d'usure et de poussière. Dors, ferme donc ces yeux qui te font mal, renonce, dors. Mardi 30 septembre. Dans ce coin de compartiment, face à la marche, près de la vitre grise couverte à l'extérieur de gouttes de pluie, par laquelle je viens d'apercevoir, s'en allant après m'avoir dit adieu, Anne et Rose Bailey, James Jenkins et même Horace Buck, il ne me reste plus que quelques instants, Bleston, avant que la grande aiguille soit devenue verticale sur l'horloge, avant que le train s'ébranle m'emportant loin de toi. Quelques instants pour esquisser les pages que je n'ai pas pu écrire hier soir comme je l'aurais voulu parce qu'il était bien trop tard, que je ne pouvais plus lutter contre le sommeil. Il ne me reste plus que quelques instants, Bleston, pour évoquer une dernière fois la grande salle de chez Matthews & Sons où je ne retournerai plus, où tous les employés de cette année se trouvaient réunis hier pour la dernière fois, et même James Jenkins, dont les vacances étaient terminées. Et je n'ai même plus le temps de noter ce qui s'était passé le soir du 29 février et qui va s'effacer de plus en plus de ma mémoire tandis que je m'éloignerai de toi, Bleston, l'agonisante Bleston toute pleine de braise que j'attise, ce qui me paraissait si important à propos du 29 février puisque la grande aiguille est devenue verticale et que maintenant mon départ termine cette dernière phrase.
C'était L'emploi du temps, la ville monstre. Deuxième épisode du podcast Archilittérature, une lecture proposée par la Maison de l'Architecture de Franche-Comté. À bientôt !